Je voudrais d'abord remercier le passage Sainte-Croix de votre bon accueil, de la qualité de la préparation et de l'organisation qui ne m'étonne pas, mais qui m'épate et me réjouit. Enfin, c'est, vraiment, je pense que vous êtes bien parti pour continuer sur une voie de succès qui est du reste bien commencée, paraît-il. Et remercier aussi les deux intervenants du début de l'après-midi. Vous avez bien fait d'avoir l'idée de les convoquer, de leur demander d'apporter ce qu'ils avaient à apporter. Je vais peut-être tout de suite dire un mot de la seconde conférence sur la musique, pour remercier Patrick Lang spécialement de cette découverte que nous sommes sûrement nombreux à avoir fait de ce compositeur qui est en effet indéniablement un compositeur extrêmement important, intéressant et auquel, en dépit de la situation qu'il a lui-même regrettée, de devoir l'écouter sur un truc enregistré et donc finalement de perdre cette dimension essentielle à toute œuvre d'art qui est le rapport au don original, originel, on pourrait dire aussi finalement, que l'œuvre appelle absolument de manifester pour être reçue de quiconque. Ça me fait faire un lien tout de suite avec une chose que j'ai d'ailleurs relevée en vous écoutant comme une chose qui me plaît bien en effet. L'art, comme la foi, foyer de résistance à la société, au consumérisme et tout ça. Vous voyez, un des très gros problèmes que nous avons avec les œuvres d'art contemporain, aussi bien avec la musique, avec pas seulement les arts plastiques et tout ça, bon, c'est évidemment le fait que nous sommes désormais, depuis plus d'une génération, conditionnés, fortement habités par des réflexes consuméristes. C'est-à-dire que nous voulons du consommable, jetable, rapidement, efficacement. Nous voulons de la séduction extrêmement efficace, etc. Nous n'en finissons pas d'en vouloir et d'en vouloir toujours plus de ce point de vue-là. Et quand les œuvres ne nous semblent pas immédiatement généreuses de la jouissance qu'on attend d'elles, eh bien, on passe à autre chose. Ou bien quand l'art contemporain, justement, art contemporain, on va revenir sur ce concept, mais l'art contemporain, en effet, désigne, et c'est assez curieux que ça soit ainsi, les arts plastiques. Après tout, ça pourrait vouloir dire aussi tout l'art qui nous est contemporain, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où remonter, etc. Bien. Enfin bon. Mais dans le domaine des arts plastiques, la réputation, évidemment, de difficultés, qui est le sujet d'aujourd'hui, hein, de problèmes que nous avons dans la réception aisée, que nous souhaitons aisée, très souvent des œuvres d'art, et il tient tout simplement à ce facteur de notre conditionnement qui fait qu'on en voit beaucoup, on les voit sous forme documentaire, pardon Jérôme, mais au fond, moi j'ai du mal avec le fait de... Or, cependant, c'est indispensable. Et puis, c'est quand même assez passionnant, revoir le Christ de Germaine Richier, tout ce qu'il nous a montré, c'est des œuvres formidables, c'est très intéressant. Mais il faut garder tout à fait à l'idée, quand on voit tout ça, et quand on a entendu la musique ensuite, franchement, qu'on est en très mauvaise situation de réception. Et que c'est tout à fait problématique, cette affaire-là. Comment aller contre, alors que toute notre société va dans ce sens, et que ce soit les médias, la télé, tout nous est servi, même les institutions culturelles, au fond, croient qu'elles font leur mission quand elles remplissent les programmes d'affaires qui vont se succéder, etc., avec des conférences à l'appui, des histoires dans tous les sens, etc. Bon, on en fait, en pensant que c'est ça, finalement, essayer d'apporter une éducation à qui. Et quel sens ça a, finalement, quand c'est justement quelque chose dont on constate, les études du ministère de la Culture le montrent, après des années où on a soi-disant démocratisé l'art et la culture, on constate qu'en fait, ça reste réservé à une élite, tout simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire, même ça? Bon. Donc, bon, on est devant une situation, vous voyez, de rapport à l'art qui, de mon point de vue, est faussé et nous rend la tâche très compliquée par rapport aux propositions qu'il n'y a aucune raison de ne pas apprécier a priori comme infiniment sérieuses, capables de nous bouleverser qui sont apportées par les artistes, que ce soit en musique, en danse, en théâtre, en littérature et en art plastique, bien sûr, en cinéma ô combien. Bon. Et donc, on est en très mauvaise situation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'éducation à l'art? Oui, bien sûr, on a besoin de clés. Patrick Lang a essayé d'en fournir quelques-unes, c'était extrêmement utile. Ça. Moi, je suis moi-même musicien, je suis organiste, c'est pour ça que j'aime beaucoup Messiaen, j'ai beaucoup travaillé à Messiaen, bon, j'ai passé énormément d'années. Je ne vous ai pas raconté, ça, c'est pour ça que vous ne l'avez pas dit. Bon, mais la musique a été, moi, le lieu vraiment de l'éducation à l'art. Je l'ai reçu de la musique dans un premier temps. Et c'est très important, même pour ce que je vais vous dire après de ma conception de l'art, justement, parce que je crois que c'est le paradigme musical qui imprime en moi ma conception de l'œuvre d'art plus généralement, et donc aussi des arts plastiques que j'aime énormément et que je pense connaître un petit peu. Je suis quelqu'un qui a, depuis l'âge de, je suis étudiant, fréquente absolument les galeries, les expositions, tout ce que les institutions qui se sont multipliées depuis d'art contemporain nous délivrent. Ayant la chance d'être parisien, j'ai vraiment été présent et témoin tout à fait attentif à tout ce qui s'est passé sur la scène, en tout cas parisienne, même si elle est un peu décriable. Il n'y a pas que Paris, mais quand même beaucoup de choses sont passées à Paris à partir des années 70. Et donc, bon, mais oui, nous sommes sans doute heureux d'avoir, et il est indispensable d'avoir ici ou là des clés de pour situer, pour mieux évaluer finalement ce qu'a été au fond ce qu'est la démarche, le vocabulaire, le langage des propositions artistiques. Bon, c'est infiniment précieux parce que finalement, bon. Alors, ça ne retire pas cependant le fait, et Patrick Lang ne va pas me contredire parce qu'il l'a dit lui-même, que au fond, toute la parole des concepts, n'est-ce pas, la parole qui va chercher à analyser, à poser des mots au fond, et sur les œuvres, elle est déplacée, elle ne va pas, ça ne va pas. Nous devons, il a essayé de nous le dire et de nous en faire l'expérience tout à l'heure, et c'était vraiment très heureux que ça se présente ainsi, nous devons essayer de faire silence, de taire nos pensées. Alors c'est vrai aussi pour les arts plastiques, c'est vrai pour tout l'art, cette affaire-là. Donc, de ce point de vue, la musique nous enseigne peut-être la première, cette voie d'auto-éducation, au fond, où on doit d'abord se déconditionner d'une société où on est empli d'images, de bavardages, de pensées dans tous les sens, et on a énormément de mal à se taire, tout simplement à se taire, pour entrer en situation de disponibilité et de respect, tout simplement, de l'artiste qui lui-même a bien dû se taire pour produire des choses ainsi, pour persévérer dans son œuvre, etc., et se mettre lui-même en disponibilité énorme pour parvenir à livrer quelque chose de très intérieur et de très conséquent. Bon, et on ne peut pas douter dans ce qu'on a entendu cet après-midi qu'il en soit absolument ainsi. Et bon. Donc, je fais là tout de suite une première relation aussi à la foi. Les chrétiens parmi vous et ceux qui ont, au-delà d'une pratique, peut-être une vraie vie de relation à la transcendance, et savent à quel point il est difficile dans notre conditionnement général de prendre un temps de silence pour faire oraison, à quel point c'est une exigence à contre-temps que de s'arrêter et d'essayer de taire en soi tout le bavardage, encore une fois, toutes les inquiétudes, les stress, tout ça, pour se rendre disponible à une dimension qui est vraiment inaperçue de la plupart de nos contemporains, mais qui est évidemment essentielle quand on a la foi, c'est-à-dire vraiment, la transcendance, quelque chose qui nous sort complètement de ce qui est, qui nous sort, de tout ce qui est l'environnement extraordinairement sollicitant du temps dans lequel nous vivons, mais qui nous fait rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est bien au plus intime de nous-mêmes, je prends une formule qui évoque saint Augustin, que nous participons, que nous entrons en relation de ce qui est finalement l'objet commun, au fond, de ce que les artistes cherchent et de ce que les croyants cherchent, ce qu'ils cherchent et qu'ils vivent et ce qu'ils expérimentent, à savoir quelque chose qui n'est pas tellement discible, mais quelque chose qui relève complètement de l'expérience et qui, au fond, s'évalue ou se caractérise par la dimension, encore difficile à décrire et à porter par les mots, d'enrichissement, d'épanouissement, on pourrait dire d'accomplissement intérieur, au fond, de jouissance. On pourra parler exactement de ce qui arrive au mystique comme à l'artiste et à celui qui reçoit les œuvres de l'art comme d'êtres qui cherchent les voies de la jouissance et qui, heureusement, les trouvent. Sinon, ils ne perserveraient pas longtemps. Donc, voilà. Art contemporain. J'en dis un mot tout de suite avant peut-être de vous laisser, parce que je n'ai pas prévu de faire une conférence vraiment, tout ça, mais bon, je suis assez bavard de nature, vous allez vous en rendre compte. Et donc, je vais essayer de dire des choses, un certain nombre de choses. On va plutôt surtout essayer d'occuper l'heure qui va vite passer. Il est déjà 5h20, pour essayer d'échanger plus sur les deux premiers temps de l'après-midi et puis aussi ce que je raconte moi-même tout de suite. Bon. Art contemporain. C'est un concept qui a un double défaut. Il est, encore une fois, étrangement réservé aux arts plastiques, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, donc pourquoi ? Pourquoi ça ? Et deuxième défaut, il est, je suis en train de l'oublier tout de suite, il est, pardonnez-moi, j'ai un peu de fatigue, là, j'oublie, j'avais tout de suite en tête mon idée, puis elle vient de m'échapper. C'est lié à la question des arts plastiques, problème. Et c'est une affaire qui semble entièrement motivée par l'esprit de polémique. Je pense qu'en France, on est les rois de la polémique. Est-ce que, tant en musique d'ailleurs, les combats entre Boulez et Landowski ou je ne sais quoi, enfin on pourrait écrire l'histoire de la musique contemporaine en France d'une manière très différente de ce qui s'est passé en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Tout ça, parce que la France est la France et qu'on adore l'idéologie. On adore rentrer dans des affaires où on est l'avant-garde ou pas, etc. Les novateurs, les réactionnaires, enfin tout ça, ça marche à fond. Donc c'est un concept polémique parce qu'il est extraordinairement porté par une histoire qui s'est beaucoup, beaucoup focalisée sur les avant-gardes. Et c'est vrai que les plasticiens n'ont pas été les derniers en matière d'innovation, quelquefois forcenée, de provocation, allons jusque-là, volontaire, de choses comme ça. On pourra revenir sur l'histoire de la banane tout à l'heure. Bon. Mais c'est aussi vrai des musiciens. Il y a eu des révolutions musicales considérables qui se sont produites depuis Stravinsky et tout ça. Bon, et c'est vrai, au fond, aussi dans la danse, c'est vrai dans le théâtre, c'est vrai dans tous les arts. Bon. Peut-être moins en littérature, encore que. Mais enfin donc, finalement, quelque chose a été porté un peu comme une sorte de... avec une vocation préférentielle, on pourrait dire, par les arts plastiques, comme étant une affaire où il fallait absolument que le paysage soit occupé et l'attention coûte que coûte mobilisée par des gens phénoménaux qui faisaient des trucs invraisemblables, qui choquaient beaucoup et qui révolutionnaient absolument les codes indéfiniment. Bon. D'où le fait que, considéré comme ça, et avec finalement une grande absence de distance, on peut dire, il y avait évidemment en face les opposants, c'est-à-dire et les opposants c'était quoi ? Les tenants de la beauté, du métier, de la tradition, des académismes, etc. Tout ça. Bon. Mais l'art contemporain, j'ai utilisé moi-même l'expression, je pense qu'il faudrait la supprimer. J'ai utilisé l'expression parce que justement, je reprends au fond, dans ce petit livre, je vous le montre, voilà, donc on ne le trouve pas, tant pis. Ce petit livre, il essaye de donner lui aussi des clés, il essaye d'apporter un peu une sorte de lecture par l'histoire de ce qui s'est passé dans la modernité à partir Je ne remonte pas, en fait, aux premières avant-gardes qui sont pourtant essentielles dans ce qui s'est passé du côté de la Russie, qui venait de faire sa révolution autour du constructivisme et de tout ça, que ce qui s'est passé dans la partie plus occidentale, et notamment autour du courant Dada et de Picabia, Marcel Duchamp, bref, et des débuts du surréalisme, enfin, bref, toute l'aventure qui est très située autour pendant la Première Guerre mondiale. Mais on pourrait remonter un peu avant pour évidemment évoquer la grande importance du cubisme, tout ce qui s'est passé de fabuleux. Hein, faut le regarder comme une histoire incroyablement riche quand même, à partir de la révolution impressionniste, c'en est une première et qui n'est pas du tout à négliger. Les impressionnistes ne sont pas les retardataires ou je ne sais pas quoi par rapport à... Parce que quelquefois, justement, dans les polémiques, on dit « Mais alors, regardez, c'était tellement extraordinaire, Claude Monet, ça vous parle tout de suite et tout ça, et vos histoires, il faut lire 15 lignes de commentaires pour commencer à se dire « Ah bah tiens, je vais peut-être commencer à comprendre pourquoi le tas de charbon ici est intéressant avec une fleur plantée dessus. » Bon, eh bien non, en fait, il faut bien mesurer que, y compris les impressionnistes, il faut peut-être les regarder aussi comme des gens qui, en leur temps, étaient des gens absolument novateurs, sous l'angle vraiment très révolutionnaire. On ne peut absolument pas se rendre compte de ça, parce que ça appellerait d'être tellement historien, c'est-à-dire de faire un tel décalage dans le temps, que c'est très très difficile pour nous de rejoindre ce qu'était le paysage commun pour comprendre ce qu'était l'exception et sa brutalité, en un sens, à l'époque. Comprendre comment Stravinsky pouvait être choquant dans le paysage de ces mêmes années, tout ça, c'est très difficile pour nous. Parce que pour nous, c'est une œuvre classique et beaucoup plus classique que Boulez, justement, ou je ne sais quoi. Enfin, bref. Bon. Mais j'ai voulu garder cette catégorie parce que en la prenant depuis tout ce qui s'est passé depuis les années 60. Parce que ce petit livre donne beaucoup de clés, justement, de compréhension de comment les artistes. Des très nombreux artistes, dans des courants d'ailleurs très différents de la modernité. Il n'y a pas une modernité monolithique, il y a beaucoup de recherches qui vont dans des sens soit beaucoup plus formalistes, soit beaucoup plus conceptuels, soit beaucoup plus je ne sais pas quoi. Bon, il y a des tas d'affaires qui se passent, c'est très compliqué, pas très compliqué, mais c'est très divers. C'est très divers. Et donc il faut un peu étudier tout ça pour s'y reconnaître et essayer de... Bon. Et donc ce petit livre donne des éléments d'appréciation pour montrer en effet que, étrangement peut-être, mais il y a beaucoup, beaucoup de points communs entre ce que cherchent les artistes de la modernité et jusqu'à nos jours. Moi, je ne fais pas tellement la différence entre la postmodernité et la modernité, et même entre l'art contemporain et la modernité. Pour moi, l'art contemporain, c'est de l'art moderne. Et la modernité, la postmodernité, c'est, on peut dire en quoi, pourquoi s'il y a ce concept et tout ça, mais bien sûr, mais en fait, c'est une modernité qui se poursuit autrement, tout simplement. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de relations extrêmement importantes à relever entre, alors dans le domaine des arts plastiques, ce dont témoigne par-delà l'immense diversité des expressions, donc les artistes plasticiens. Et alors, prenons au fond les meilleurs, mais qui sont les meilleurs? Comment les discerne-t-on? Tout ça, c'est des questions qu'on ne va pas résoudre ce soir, j'en ai bien conscience. Bon. Mais quand même, ça se pose. Bon. Et finalement, les traits essentiels du christianisme. Voilà. Je pense, par exemple, et je montre, je pense, dans un assez long chapitre de ce petit livre, comment le rapprochement de l'art et de la vie, qui est un peu un leitmotiv, finalement, des avant-gardes, pas seulement, un leitmotiv large, des recherches artistiques, de la création artistique, on peut dire, au fond, pendant tout le XXe siècle, et ça continue. Rapprochement de l'art et de la vie. Alors, on peut le traduire de multiples façons, hein, mais on pourrait dire, dès le moment du réalisme, la peinture réaliste de Courbet, et commencer ce vaste mouvement où les arts plastiques, n'est-ce pas, se détachent de leur fonction de représentation à distance, idéalisée, symbolisante souvent, au service des pouvoirs, au service des commandes, des grands sujets historiques, religieux et autres, etc. Bien, quelque chose s'engage avec la peinture de Courbet, par exemple. Mais il n'est pas le seul à ce moment-là. Enfin, lui, c'est très important. Bon. Vous voyez bien, donc, des avant-impressionnistes, au fond, comme rapprochement de l'art et de la vie. Bon, eh bien, ce qui s'est joué, dans le catholicisme notamment, avec cette charnière formidable du Concile Vatican II, va tout à fait dans ce sens aussi. Bon, une des marques, évidemment, extraordinairement importante et évidente du christianisme, c'est son attachement au sensible. C'est une religion de l'incarnation qui pense que Dieu s'étant fait l'un des nôtres, il a par là même consacré l'infinie valeur de sa création. Et donc, de tout ce qui est de l'ordre du sensible, tout ce qui est le corps, tout ce qui est les éléments contingents de la matière et du temps. Bon, eh bien, il est absolument démontrable que l'art contemporain, auquel on reproche si souvent, d'une manière stupide, en tout cas qui n'est jamais vérifiée, le fait qu'il s'est égaré dans la conceptualité, l'intelligence, la difficulté, l'abstraction des affaires, etc., eh bien non, c'est l'inverse. L'art contemporain, c'est démontrable. Hein, pour l'essentiel de ce qu'il a fait, et en général tout ce qu'il a fait de mieux d'ailleurs, eh bien, a été plutôt une démarche inverse d'approfondissement de la dimension du sensible. L'approfondissement de la dimension du sensible. Toutes les œuvres que nous avons vues dans la première partie de l'après-midi, là tout à l'heure, sont des œuvres qui s'adressent à notre sensibilité peut-être beaucoup plus que des œuvres bien plus anciennes, qui déjà, l'époque baroque, le baroque est un art qui s'adresse à la sensibilité, on peut dire, dans le christianisme, largement, puisqu'il y a aussi un baroque protestant, c'est Jérôme Cotin qui me l'a appris tout à l'heure. Bon, donc, mais le sensible, vous voyez, c'est très étonnant. Les artistes, en fait, n'ont absolument pas, dans les arts plastiques, renoncé au sensible, c'est le contraire. Et nous pouvons absolument nous dire que nous avons raison quand nous apprécions, à condition, là encore une fois, de se mettre en condition, de prendre le temps, d'étudier ce qu'il faut étudier pour savoir situer, remettre dans le contexte, etc. Quand nous apprécions les œuvres, que nous voulons les apprécier, les œuvres plastiques, sur le mode de la réception sensible, est-ce que ça me touche ou pas? Est-ce que je suis bouleversé ou pas? Est-ce que j'ai envie de revenir? Est-ce que je veux... voilà. Comment une œuvre va m'habiter intérieurement? Ce n'est pas un truc intellectuel, ça. Ça, c'est un truc de l'émotion, de l'affectivité, du sensible, et c'est capital. C'est capital. Et la musique, de ce point de vue-là, nous montre le chemin, ne cesse de le faire. Alors, voilà. Alors, je comprends qu'en musique, on soit un peu... Si on est d'accord avec ce que je dis là tout de suite, la musique, plus que tous les arts peut-être, est l'art du corps. C'est l'art de la sensibilité, c'est l'art de l'émotion. Bon, alors à ce moment-là, on va être évidemment d'autant plus, comme l'est Patrick, je pense que c'est tout à fait son cas, résistant, enfin en tout cas inquiet et hostile à toute une musique qui en effet a pris une voie tout de même assez arbitrairement intellectuelle. Bon, mais Jean-Sébastien Bach aussi, c'est très intellectuel. Alors, c'est très intellectuel, mais c'est aussi très sensible. C'est toujours très sensible. Donc, bon, lui réussit les deux. Hein. Il est un parfait, au fond, un parfait abstrait et un extraordinaire sensible. Bon. Donc, je montre un certain nombre je fais un certain nombre de rapprochements qui, de mon point de vue, ont beaucoup de sens et qui sont rarement vus. Voilà. Et qui ont pour fonction, ce petit livre, en tout cas, le revendique comme ça, de faire tomber énormément des arguments qu'on entend et qu'on réentend à n'en plus pouvoir, des gens qui, en fait, ne se sont jamais donné la peine d'étudier un peu les choses, de se mettre en condition, d'être attentif, voilà, tout simplement, qu'on entend contre l'art contemporain. Voilà. C'est tout à fait terrible de voir. Et alors, une dame tout à l'heure disait, je ne sais pas si elle est partie, mais l'histoire continue. Ben oui, l'histoire continue. Alors, tous ceux, les polémiques, la crise de l'art contemporain, tout ça, il y a 20 ans, je ne citerai pas les acteurs qui se croyaient tellement autorisés à lever le drapeau de la résistance contre cet art décadent. Enfin, qu'est-ce que c'était l'art contemporain? C'était pour eux les impasses de je ne sais pas quoi. Bon. Eh bien, l'histoire continue. C'est-à-dire qu'on voit, il suffit aujourd'hui d'être simplement présent au fait que les écoles d'art en France sont pleines, que les musées s'ouvrent de plus en plus. Ça doit être le cas du Bon Musée de Nantes, j'imagine, aux expressions des artistes d'aujourd'hui, etc. Tout ça continue, ça continue, ça continue. C'est-à-dire qu'on fond nos petites polémiques sur le fait de savoir si l'art contemporain en bloc, concept polémique encore, a de la valeur ou pas, c'est rien, c'est nul. Regardez simplement, rencontrez, allez voir. Mais rencontrer, c'est formidable, ça, c'est très important. Si vous voulez vous débarrasser complètement des préjugés qui vous restent contre l'art contemporain, rencontrez les artistes. Vous verrez des gens infiniment intéressants, le plus souvent, qui ont consacré, avec quel risque souvent, leur existence à ces affaires insondables, quoi, tellement fragiles, tellement difficiles, tellement qui engagent tellement de soi-même. Bon, que sont les œuvres ? Alors peut-être ils sont mauvais, peut-être ils se fourvoient, peut-être vous n'allez pas être en phase parce que je ne sais pas quoi, pourquoi. Mais allez les rencontrer. Vous ferez une expérience qui, 3 fois sur 4, vous apprendra que c'est des gens infiniment intéressants. Voilà. Bon, ça je peux en témoigner parce que c'est ce que nous faisons beaucoup au Bernardin. On accueille des artistes vivants et on les fait parler, on les met en situation, non pas seulement de nous montrer leurs œuvres, c'est déjà beaucoup et c'est pour eux le principal, mais de les faire nous rencontrer, parler, tout ça, c'est absolument généralement passionnant. Et pas seulement parler de leur art, de leurs œuvres ou de l'art contemporain ou de je ne sais pas quoi, mais parler de l'existence, parler de la vie, parler des choses. Ils ont une manière d'appréhender justement leur temps, la société, les problèmes, y compris politiques et tout ça, de notre temps, d'une manière qui est extrêmement intéressante le plus souvent. Bon. Alors même qu'ils ne le font pas sur un mode intellectuel ou sur un mode savant. Voilà. Bon. J'ai dit des choses très très confuses peut-être et dans tous les sens. Est-ce qu'une question pourrait me ramener un peu dans les rails ?
Oui, peut-être que vous avez abordé un certain nombre de points que je vais évoquer, mais il y a le problème de la recherche de la vérité.
Oui.
Est-ce que vous pouvez un peu... Alors, bien sûr.
Avec un peu tout ce que je viens de vous dire... L'importance qu'il faut attacher au sensible, en pensant bien que ce n'est pas du tout une affaire qui est terminée, loin s'en faut, que peut-être même elle est encore plus insistante désormais qu'elle ne l'était dans le passé. Bon, vous comprenez que quand on dit « les artistes cherchent la vérité », on ne va pas parler de la vérité, naturellement, que les scientifiques conçoivent, comme étant, à partir des codes qui se sont donnés, n'est-ce pas, ou du langage qui est le leur, des formulations catégorisantes, etc., de concepts, d'affaires comme ça. Ce n'est pas de cette vérité-là dont il s'agit. Peut-être pourrions-nous concevoir une vérité dans un ordre sensible, justement, déjà. Et qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'une vérité qui serait sensible ? Alors, on parlera, par exemple, de l'authenticité. L'authenticité, oui. La justesse. Ah, très intéressant, ce mot, la justesse. La justesse... C'est un adjectif qui permet de s'approcher beaucoup, d'être pas loin du registre de la vérité, mais sur un mode qui est tout à fait parlant, puisque ça va dire, en musique par exemple, la justesse, c'est ça marche, c'est adéquat, ça bien. Eliasson, donc, il disait lui-même, au fond, je disparais dans ma... progressivement, à mesure que l'œuvre se construit, je disparais dans ma capacité, au fond, de maîtriser les choses pour, au fond, être porté par une forme d'objectivation, n'est-ce pas, de ce qui va s'agencer avec les relations, la fameuse idée de relation, elle est capitale, évidemment, dans l'organisation de sa composition, tout ça, bon. Progressivement, quelque chose d'une objectivation va se donner. Je crois que les artistes vivent aussi, les artistes plasticiens vivent vraiment quelque chose de très comparable. Ils sont, le plus souvent, quand ils créent une œuvre, ils vivent cette chose étonnante de ne pas être maîtres de ce qu'ils ont fait. Certes, au départ, ils se sont mis au travail avec une idée. Ils ont voulu faire une représentation ou aussi quelque chose. Ils avaient une idée, quelque chose semblait écrit d'une manière latente en eux et ensuite pouvoir être exprimé. Sauf que, extrêmement couramment, ils vivent l'expérience étonnante d'être rapidement comme dépossédés par ce qu'ils ont pourtant été les seuls à accomplir et ce qu'ils ont concrètement effectué, comme dépossédés, comme si l'œuvre d'art qui venait de se faire n'était pas leur œuvre, mais comme si Alors, c'est surtout vrai justement quand ils en sont satisfaits, c'est-à-dire quand, au fond, ce qu'ils ont produit a ce pouvoir étonnant de les épater eux-mêmes, de les étonner, de leur apprendre quelque chose, n'est-ce pas ça? Alors, voilà bien quelque chose qui nous met sur la voie, n'est-ce pas, d'une vérité atteinte. Et qu'est-ce qui se passe quand je dis ce mot vérité? Je dis quelque chose qui, justement, n'est plus de l'ordre simplement de ma vérité. Alors, ma vérité, bon, d'accord, si c'est ta vérité, mais ce n'est pas forcément la mienne, donc au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de vérité si ça n'est que la vérité subjective, personnelle et tout ça. La vérité, c'est bien quelque chose qui doit pouvoir, au fond, s'établir dans un ordre assez commun, n'est-ce pas? Assez commun. Parce que si ce n'est pas commun, à ce moment-là, on va supprimer ce concept qui n'a plus tellement de... Si ça n'est pas partageable, si au fond, on n'est pas plusieurs à se dire « là, tu as réussi quelque chose, c'est super, c'est convaincant ». C'est ça, extra, voilà. Et on va être plusieurs. Et alors, ça, c'est formidable parce que là, on dit, bah, mais donc, on est bien dans quelque chose qui est un ordre de vérité, en effet, qui est d'abord la vérité d'une émotion partagée. C'est pas rien. J'ai ici, justement, sachant que vous aviez une question là-dessus, j'ai dans ce petit livre où je cite beaucoup d'artistes. Je les fais parler, donc, et puis je les fais parler pour certains. Et puis, pour d'autres, j'ai été dans les recueils de textes qu'on a ici ou là. Il y en a quand même beaucoup d'artistes contemporains dont on a recueilli heureusement les propos et qui nous permettent de savoir un peu ce qu'ils pensent et tout ça. Bon. Ici, j'ai quelque chose que je vais vous lire, une citation de Christian Boltanski. Vous connaissez cet artiste, voilà. Il a en ce moment une passionnante, formidable rétrospective au Centre Pompidou. Elle dure jusqu'au 16 mars. Je fais de la pub, elle est géniale. Il faut aller voir ça. C'est très spécial parce que ce n'est pas une rétrospective au sens classique. C'est l'artiste lui-même qui a orchestré le conservateur, le commissaire se faisant très, très modeste et très en retrait. Il a orchestré lui-même l'installation du très grand espace qui lui a été donné au sixième étage, au sixième étage du Centre Pompidou. Donc c'est à côté de très grand artiste aussi en ce moment. Mais si, Bacon, Francis Bacon. Il y a Bacon et Boltanski. Allez voir les deux, mais ratez pas Boltanski. Il est vraiment quelqu'un de... Pour moi, c'est un des très grands artistes vivants français d'aujourd'hui, né en 1944. Voilà ce qu'il dit sur ce sujet de la vérité. Et je l'ai mis dans le chapitre « La recherche de la vérité ». Dans art, il y a artifice. L'art est toujours lié au mensonge. On pourrait dire, ben voilà, donc lui, il apporte un démenti, il n'y a pas de... L'art est toujours lié. Le mensonge arrange la vie et la rend plus belle. Alors, il pense là, notamment parce qu'il aime beaucoup le théâtre. Il pense, au fond, à une tradition dans le théâtre. Le théâtre, ça consiste, au final, à forcer le trait, à faire des affaires qui ne sont quand même pas la réalité, qui sont là pour, justement, distraire, émouvoir, mais, vous voyez, emporter dans des choses qui sont plus caricaturales que vraies. Bon, donc, le mensonge arrange la vie et la rend plus belle. Et comme on ne sait pas ce que c'est que la vérité, ce n'est, après tout, pas très important. Mais il continue. En même temps... Alors, il se rétracte, après. L'artifice est là pour montrer la vérité. Plus tu fais faux, plus tu amènes au vrai. Le mensonge que représente l'art dévoile une vérité qui n'est pas une vérité personnelle, mais une vérité exemplaire, générale. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Si c'était qu'une vérité personnelle, bon, peut-être pas plus d'intérêt que ça, au fond. Ben c'est l'artiste qui fait ça, bon, très bien. Mais une vérité qui dit exemplaire et même générale. Ce n'est pas la vérité du moi, mais du nous, la vérité essentielle. C'est un artiste qui dit ça. Bon. C'est lui qui continue. Ce qui est le plus important dans l'art, c'est que ce soit totalement universel et collectif. Mais que, c'est cette phrase-là qui est géniale, vous allez voir, je vais la redire deux fois peut-être, mais que chacune des personnes qui le reçoivent pense que c'est personnel et s'y reconnaissent. Bon, je relis la phrase. Ce qui est le plus important dans l'art, c'est que ce soit totalement universel et collectif. Donc là, on serait, si vous voulez, sur le mode, au fond, un peu intriguant quand même, au fond, d'une vérité artistique qui serait quand même un peu comme la vérité scientifique. C'est-à-dire un truc où on dit, bon, bah, bon. Sauf que non, il introduit quelque chose qui est capital. Là, c'est la seconde partie qui est extrêmement importante. Il réintroduit entièrement la subjectivité et sur un mode qui est tout à fait clair, en fait. Bon. Donc, ce qui est le plus important dans l'art, c'est que ce soit totalement universel et collectif, mais que chacune des personnes qui le reçoivent pense que c'est personnel et se reconnaissent. Pense que c'est personnel, première étape, première chose, c'est très important. Vous voyez, quand on écoute Eliasson, tout ça, si vous fermez les yeux, faites abstraction de vos pensées, de vos etc., il n'y a pas de doute, c'est une affaire entre lui et vous. C'est pas, les autres n'existent pas, on est complètement avec l'œuvre, avec le musicien, avec l'œuvre. Bon. Et on est peut-être quelquefois plus près de l'œuvre que lui-même peut-être ne l'a été. On peut aller jusqu'à penser cette chose outrecuidante. Bon. Mais pense que c'est personnel et se reconnaissent. C'est-à-dire que ce qui est absolument formidable dans l'œuvre d'art, dans toutes les œuvres d'art, au fond, c'est qu'elles ont ce pouvoir, en effet, finalement, de nous agrandir, c'est-à-dire de nous révéler au dépassement que nous sommes nous-mêmes à nous-mêmes. Nous sommes plus que nous-mêmes. Nous ne le savons pas. L'œuvre d'art le sait et le montre. Ça, c'est énorme. Ça, et c'est une affaire mystique, c'est une affaire absolument contiguë, pour moi, de la question du rapport au divin. Bon. Mais ça, c'est évidemment mon engagement personnel là qui parle. Vous n'êtes pas du tout obligé de me suivre sur le terrain chrétien, mais je vous signale en passant que le parallèle est absolument, absolument pour moi, évident et a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Et que ça crédibilise exactement de la même façon l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de vérité aussi dans la transcendance qui n'est absolument justement pas, qui ne peut pas être démentie par une subjectivité, vous voyez, qui resterait simplement au fond la possibilité que ce soit une espèce de sortie, une sortie de soi dans un petit rêve. C'est pas ça, c'est une entrée. C'est une entrée au plus intime de soi. Donc le plus intime de soi dont l'art dit, comme l'évangile le dit, au fond, que c'est une affaire collective, c'est une affaire commune, pas seulement parce que nous nous ressemblons, mais parce que nous sommes, parce que cette histoire-là, elle conduit tout droit au partage, à une affaire qui engage absolument le caractère irremplaçable pour l'être singulier que je suis, d'être dans la communauté des êtres singuliers. S'engage là la dimension politique et tout ça, qui est l'objet du dernier livre que vous avez évoqué, Art, foi, politique, un même acte. Donc, et moi, je pense que, au-delà du fait que je rapproche complètement l'art et la foi, pour des raisons extrêmement essentielles, qui tiennent à l'essentiel de l'art et qui rejoignent l'essentiel de la foi, je pense que la dimension politique, elle est tout à fait liée. Et personnellement, je me porte complètement en faux contre la survivance d'un rapport qui est pour moi et d'ailleurs consumériste lui-même, enfin, d'un rapport individualiste à l'art comme jouissance privée, fermée. Non. C'est bien sûr une jouissance intime, subjective, vous voyez, privée en ce sens. Mais elle est immédiatement source et connexe entièrement d'une dimension qui est collective, qui est publique. Et ça, ça tient complètement à la même chose qui fait que l'artiste exprime dans une extériorité qui va naturellement être tout lui-même, mais en même temps tout autre que lui-même, lui échapper, je le disais tout à l'heure entièrement, ce qu'il a de plus singulier dans une altérité, dans une affaire qui n'est plus lui. L'œuvre d'Eliasson, là qu'on a entendu tout à l'heure, elle échappe absolument au bonhomme Eliasson, alors qu'elle est entièrement de lui. Elle ne lui appartient plus. Elle est une affaire politique, au sens le plus large, si vous voulez, du politique, évidemment, qui est le commun qui regarde nos responsabilités partagées sur ce que nous faisons de l'histoire. Voilà, enfin, c'est tout ça que ça engage pour moi. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus.
dernière précision, justement.
Ah, mais oui, le temps passe.
Dans cet ouvrage, vous dites que l'art, la foi et la politique liés sont des existentiaux.
Oui.
Pourquoi ce langage heideggerien ?
C'est pas heideggerien, c'est simplement le fait que justement je constate au fond dans ce rapprochement, ça va permettre de terminer, puis allez-y de vos questions, mais on peut peut-être déborder au fond de 6 heures, on est tenu à 6 heures, on peut aller plus loin. Bon, on verra. Ceux qui peuvent. Mais comment dirais-je, l'art et la vie donc sont désormais, vous voyez, en rapport, je dirais, de compénétration extraordinaire. Et c'est une immense chance que nous avons, en effet, d'artistes qui prennent aussi bien les objets de la vie quotidienne, qui sont quelquefois eux-mêmes dans leur situation, qui se revendiquent eux-mêmes comme étant l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est eux, etc. Ah bon. C'est le grand sculpteur minimaliste, aujourd'hui âgé de 80 ans, Richard Serra. Je prends une citation de lui dans ce livre-là encore, qui dit « On n'est pas artiste seulement quand on travaille. Être artiste, dit-il, lui qui fait des objets, et quels objets ? Des sculptures en métal immenses, extrêmement massives. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'exposition Monumenta au Grand Palais, où il envahissait le Grand Palais de 3 immenses tours en métal extraordinaires. Bon, Richard Serra, grand artiste, hein, vraiment, minimaliste américain, bon, qui disait donc, on n'est pas seulement artiste quand on travaille. L'art, être artiste, disait-il, c'est une manière d'être. C'est une manière d'être. Alors moi, je pense ça absolument. Je pense que c'est vérifiable chez énormément d'artistes aujourd'hui dont on voit bien qu'on ne peut pas dissocier au fond leur production artistique, les objets qu'ils vont mettre dans des musées, dans des galeries d'expos, etc. Avec, alors c'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention à la contextualité, à ceci, cela. Il a toujours fallu faire attention à ça. Vous ne pouvez pas déchiffrer une œuvre de Goya ou de Greco ou de ou je ne sais pas qui sans comprendre le contexte, et d'autant plus qu'ils sont anciens. Donc il faut absolument se nourrir de tous les paramètres qui vont... Sinon, vous ne comprenez rien, en fait. Bon. Donc, bien sûr qu'il y a les éléments de contextualisation, mais on voit très bien, au fond, comment quelque chose, au fond, est descendu dans la matière même du vivant social, du vivant humain, du vivant des conditions... tout simplement de vie qui sont les nôtres, de l'activité artistique, pour n'être plus simplement la production d'objets qu'on va évaluer comme ça, comme des objets, mais des objets qui sont toujours en situation et en grande proximité avec l'artiste qui les a produits. Donc c'est ça. Donc c'est en ce sens qu'il faut évidemment penser que l'art, c'est plus comme autrefois simplement la production d'objets, même si ça reste comme ça. Et après tout, c'est très bien que ça reste comme ça et qu'on l'apprécie encore comme ça, parce qu'il y a beaucoup de magnifiques objets à considérer, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient plastiques ou tout ce qu'on veut. Bon, très bien. Mais d'abord, et plus que dans le passé, l'art est une manière d'être. Ce qui fait que peut-être aussi s'estompe le partage. Alors, il faudrait que je m'explique là-dessus, parce que je risquerais d'être mal compris. Entre les artistes et les non-artistes. Moi, je pense, comme Joseph Beuys le disait, et d'autres avant lui, que nous sommes tous artistes, en fait, et que c'est ça qui est extraordinaire, c'est de le découvrir. Alors, on peut le découvrir surtout au contact des artistes, qui ont tant à nous apprendre, justement, d'une condition d'être que nous ignorons. Nous croyons que nous ne sommes pas intelligents, maladroits, incapables, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. On porte en nous énormément de qualités qui sont malheureusement coincées par nos conditions de vie, nos obligations de métier, de profession, de technicité, de ceci, de cela. Mais en fait, nous sommes des artistes. Et révélons-nous les uns les autres à notre être artiste. Et comme ça, nous comprendrons mieux ce que les artistes qui ne font que ça, au fond, proposent. Nous y serons en tout cas mieux éduqués, mieux préparés. Et tout ça, et peut-être que nous-mêmes, nous ferons des œuvres. Voilà, nous ferons des œuvres. J'étais hier entraîné par un ami artiste dans une petite galerie formidable de la rue Mazarine, dans le quartier des Galeries, dans le quartier latin à Paris, qui m'a dit « Jérôme, viens voir quelque chose, c'est étonnant ». Et c'est un galeriste qui produit beaucoup d'œuvres d'artistes intéressants, tout à fait remarquables, plus souvent des artistes, je ne vais pas les décrire. Et en fait, il avait mis dans sa vitrine des ex-voto d'un artiste mexicain parfaitement analphabète, ou presque, faisant sur des petites plaques métalliques, avec un trou pour les fixer au mur, des petites peintures extraordinairement naïves, avec des textes que lui-même, d'ailleurs, n'avait pas écrits, sans doute, parce qu'il ne savait pas trop écrire, tout ça, des textes de reconnaissance à la Vierge Marie, à ceci, à cela, tout ça. Et je me disais, mais quand même, c'est extraordinaire, en fait. Bon, voilà cet ami artiste, qui est un très bon artiste, un professeur d'école des beaux-arts, excellent artiste lui-même, tout ça. Bon, il m'emmène, moi, voir un truc dont on pourrait dire, mais enfin, bon, c'est quoi, c'est pas intéressant, en fond, c'est des choses, bon, c'est anecdotique, c'est des petits trucs. Or, c'était extraordinaire, parce que j'en ai ressenti d'abord comme une merveille, quoi, des choses étonnamment délicates, étonnamment des images extraordinairement inventées, tout ça. Bon. Et je me suis dit, bon, c'est formidable aujourd'hui comme finalement tout se brouille d'une manière qui est très heureuse. C'est-à-dire que notre sujet, la complexité des œuvres d'art, c'est une chose très... C'est quoi votre sujet ? C'est comment faire tomber les obstacles à leur compréhension. Il ne faut pas faire tomber les obstacles. Il faut au contraire savoir qu'ils vont se multiplier encore. Ce qui compte, c'est de se préparer en nous, au fond, à la réception des œuvres d'art qui sont toutes simples, on pourrait dire, toutes simples, à partir du moment où nous nous sommes mis, je reviens au point de départ, et à partir du propos même de tout à l'heure de Patrick Lang, bon, à partir du moment où nous nous sommes mis en condition de réception. Il n'y a plus de difficultés. On n'a même plus besoin des codes, à la limite. C'est-à-dire que normalement, les œuvres d'art, alors, les œuvres d'art qui sont en effet soit d'un peintre naïf mexicain, etc., soit d'un conceptuel, je ne sais pas quoi, soit d'un truc qui fait... Enfin, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Bon, il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour quand même reconnaître un peu, situer le paysage et tout ça. Il ne faut pas, pas charrier. Ce n'est pas si difficile. Il faut un peu se documenter, tout simplement. Il bon, y a des bouquins, tant et plus, sur tout ça. Donc, bon. Mais au fond, dans la jungle apparente d'aujourd'hui, etc., finalement, les œuvres d'art, elles ont une vertu d'extraordinaire proposition de leur simplicité, à condition, parce que sinon elles ne seraient pas œuvres d'art. Les œuvres d'art ont toutes un message foncièrement simple, soyez-en persuadés, exactement comme Dieu est simple. Alors que c'est la Trinité, que c'est, etc., qu'il y a des livres de théologie comme ça, et qu'on dit, mais enfin quand même, christianisme, c'est pas si simple. C'est pas... Si, c'est absolument simple. Absolument simple, à partir du moment où on est dans un état d'expérience, vous voyez, de communion en profondeur et tout ça, nous comprenons cela. La jouissance que nous attendons des œuvres d'art est une affaire de simple à simple. Donc voilà ce que je pense.
Merci. Il nous reste juste le temps d'une ou deux questions.
Non, mais je suis désolé, j'ai trop été...
Patrick Garande.
Merci beaucoup. Merci pour les... résonance avec ce que j'ai essayé de dire aussi. Je suis extrêmement sensible. Lorsque la journaliste avec qui j'ai parlé avant-hier, il y a 3-4 jours, voulait annoncer la rencontre, m'a interrogé, elle m'a parlé de la fameuse banane scotchée. J'étais pris de coup parce que je n'avais pas du tout suivi l'affaire. J'étais complètement passé à côté du truc. Et donc je n'avais rien à lui dire là-dessus. Et je me fais donc maintenant le porte-parole de la journaliste. Qu'en est-il de cette fameuse banane scotchée ?
Vous avez dit, vous... Ah oui, la banane scotchée, ah oui, oui, ah oui, oui. Oh. Vous savez, bon, Maurizio Cattelan, c'est un grand artiste. C'est un homme étonnant dont je connais très bien l'histoire et tout ça. Bon. Et bon, il se trouve que mon épouse, qui est dans le domaine de l'art contemporain, ça, a écrit un livre d'interview avec lui. C'est un petit livre que j'ai amené d'ailleurs, je pourrais vous le montrer. Donc, c'est un type extrêmement intéressant. Catherine Grenier, c'est donc ma femme, qui a écrit donc un livre d'interview avec Maurizio Cattelan, qui est cet artiste italien qui défraye la chronique. Ça s'appelle Le saut dans le vide, et c'est fiction et compagnie au seuil. Bon. Et alors, il raconte un peu son parcours, son existence. C'est quelqu'un qui ne vient pas du monde de l'art. Il a eu une jeunesse très difficile, il était quasi délinquant étant jeune. Ça, il a commencé au fond à s'inscrire dans la société en faisant un travail de au fond, il a travaillé un temps à la morgue. Il le raconte, c'est absolument étonnant. Ça, c'est très intéressant ce passage qu'il raconte sur comme ça, il était employé à la morgue. C'est pas marrant. Bon, et puis il a ensuite été dans le design. Il a fabriqué des meubles avec je sais pas qui. Ça, il a travaillé avant, il n'a que de faire le pas. et de proposer quelque chose, un cheval suspendu. Dans une première fois, c'était un cheval suspendu en paillé, un grand cheval, ça, bon, qui a tout de suite été retenu par un galeriste de Milan, enfin, comme étant un truc vraiment étonnant, un acte en tout cas, au-delà de l'objet lui-même impressionnant, ça, et quand même aussi avec une question, qu'est-ce que c'est un animal comme ça, on aime tellement les chevaux, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire un cheval mort, etc. Bon. Donc quelque chose déjà d'un petit peu intrigant, limite, tout ça. Bon. Et il l'a donc, au fond, incité à continuer à développer des œuvres comme ça, d'imagination, tout ça. Et très tôt, cet artiste, il a côtoyé plein d'autres artistes, il s'est beaucoup informé lui-même et ça, et il a produit des œuvres qui se trouvaient être toujours des œuvres, finalement, de provocation. Alors, on dirait, la provocation, c'est un mauvais esprit, justement, c'est terrible. Si vous dites provocation, c'est que vous vous dites, ben, c'est pas bon. Sauf que Maurizio Cattelane, c'est un provocateur qui n'a rien de pervers ni de méchant, tout ça, qui simplement met le doigt sur un mode humoristique, au fond, de situations et de questions qui sont extrêmement sensibles et tout ça. Dans une œuvre qu'il a faite avec mon épouse, d'ailleurs, à Londres, que mon épouse a exposée dans une exposition dont était le commissaire à la Tate Gallery, il représentait un écureuil contre une table, qui est la tête penchée sur la table, assis sur une chaise, avec un revolver qui était posé par terre. Alors, l'image terrible. L'écureuil, c'est l'animal, surtout en Angleterre, un animal tellement familier qu'on aime, etc. Tout ça. Et voilà qu'il introduisait une extraordinaire violence, le suicide d'un écureuil, tout ça. Bon. Il a fait un Hitler en prière, il a fait... Alors, il a, avant la banane, il a scotché, mais il y a longtemps, il avait scotché son galeriste sur le mur de la galerie. Lequel s'est laissé faire. Donc là, il y avait beaucoup de scotch parce que le galeriste était assez... la banane, il a suffi d'un bout de scotch. Bon. Cette œuvre, donc, elle fait scandale. Bon, très bien. Elle s'appelle d'abord Comédienne. Comédienne, c'est naturellement la comédie bon, en anglo-italien, la comédie, très bien. Elle est présentée à la foire de Miami par la galerie Perrotin, grand galeriste, qui produit beaucoup à Paris, et pas seulement à Paris, d'artistes importants, tout ça. Bon. Cattelane, qui avait renoncé à faire de l'art après je ne sais plus quelle œuvre encore assez provocante il y a quelques années, mais qui en fait n'arrive pas à arrêter complètement, décide finalement de faire une espèce de formidable pied de nez au marché de l'art, à ce qui est finalement le plus flagrant comme étant l'obscénité aujourd'hui d'une situation qui est une situation là encore à dimension proprement politique, qui est le fait que l'art contemporain qui a cherché à se dépouiller de tout, à se rapprocher de la vie, à aller vers l'essentiel, etc., en réalité aujourd'hui peut valoir des fortunes. Et ça, c'est exactement, vous voyez, c'est l'analogue, c'est le pendant des grands scandales qui sont aujourd'hui le fait que les plus riches gagnent des fortunes absolues et que les pauvres aujourd'hui sont vraiment très pauvres par rapport à ça. Les écarts grandissent, etc. Il y a un scandale aujourd'hui du capitalisme, du risque énorme qu'il fait courir par la spéculation financière, n'est-ce pas, aux plus pauvres de ce monde. Des risques qu'il fait courir à la planète qui est en danger de survie au niveau environnemental, on le sait bien et tout ça, bien. Il y a une énorme question. Voilà qu'un artiste, voilà, met une banane, c'est ce sur quoi on glisse et on se casse la figure, n'est-ce pas? Ça s'appelle Comédienne et c'est vendu 120 000 dollars en 3 exemplaires. Il y a naturellement un autre artiste qui arrive sur l'histoire, il s'appelle David Datuna. Et lui, il dit, je vais vous faire une performance, il y a aujourd'hui beaucoup de performances, rapprochement de l'arrêt de la vie, la performance, et il prend la banane à 120 000 dollars et il la mange. Il la mange, et ça s'appelle, ça c'est une nouvelle œuvre, c'est une performance, sauf qu'elle peut peut-être pas pouvoir se reproduire plus de 3 fois, puisqu'il n'y a que 3 exemplaires, et que peut-être les 2 autres depuis sont planqués dans un coffre-fort. Bon, donc, mais ça s'appelle Hungry Artist, l'artiste qui a faim. Nouvelle surcroît d'ironie, au fond, de dénonciation aussi de quelque chose, etc. Non pas de Catalane, ils sont complices. On verra bien sûr et tout ça. Bon. Il faut se rappeler qu'en 2006, alors c'est ça, je vais être long si je continue à parler de ça. En 2006, un certain Gavin Turk avait exposé dans une vitrine ou sous un petit socle, un petit truc en plexiglas, il avait exposé un trognon de pomme. Bon, donc c'est pas la première fois qu'on expose un fruit comme ça. Bon, un trognon de pomme, c'est pas marrant quand même. Voir un trognon de pomme, c'est bon. Alors, de qui se fout-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est quand même n'importe quoi, ça. Gavin Turk, il expose donc Adam's Apple. Il commente, c'est un trognon de pomme, c'est le reste du fruit défendu. Le fruit défendu, c'est donc référence à Adam et Ève, à tout ça. Bon, intéressant. Eh bien, voilà, vous vous approchiez de cette œuvre en disant, bon, parce que vous la regardez à distance, vous dites, bon, il se fout du monde, on passe son chemin, quoi, ça suffit, quoi. C'est quand même n'importe quoi, combien ça va coûter encore cette affaire, celui qui va l'acheter, qui sera bien imbécile d'acheter ça, mais en fait peut-être aussi spéculateur, parce qu'il voudra, il saura que 20 ans plus tard, ça vaudra, je ne sais pas quoi. Bon, n'importe quoi, tout ça. Donc on passe son chemin. Et celui qui ne le passe pas, qui dit non, je m'arrête et je veux regarder ça. Toute chose, au fond, du réel, mérite d'être regardée. Peut-être que ce que d'abord nous dit l'artiste, comme le disait déjà Marcel Duchamp en 1917 quand il exposait son urinoir, il faisait une provocation, c'est vrai. De l'humour, sûrement, il en avait beaucoup. Bon, en même temps, il disait, voyez, une chose triviale, comme ça, eh ben, à coup sûr, parce que vous associez ça au pipi, à je ne sais quoi, à une affaire qui finalement, quand même pas... Bon, bien, le trognon, c'est le truc qui va à la poubelle, c'est pareil. Bon, eh bien, vous ne la regardez pas. Vous la regardez pas. Or, ça mérite d'être regardé. Tant de choses dans l'espace de la réalité sont montrées, peuvent être vues, ne sont pas regardées. Or, c'est capital de regarder. Celui qui s'offrait donc, de prendre ça au sérieux, bien imbécile de prendre ça au sérieux, mais quand même, j'insiste, il va regarder de près le trognon de pomme. Et qu'est-ce qu'il voit ? Une admirable sculpture en métal, formidablement étudiée, réalisée, etc., avec un savoir-faire considérable. Ah, il est absolument surpris, il est immédiatement réconcilié, n'est-ce pas, avec toute une affaire où on reproche évidemment à l'art contemporain d'être n'importe quoi parce qu'il n'y a plus le métier, on ne sait plus faire. Donc, mais faites un trognon de pomme absolument ressemblant, magnifique trognon de pomme, en véritable matériaux ressemblant en fait, en sculpture, eh bien vous êtes à ce moment-là, vous êtes racheté d'un seul coup parce que sans jeu de mots, donc là, voilà, vous êtes en tout cas rattrapé par la considération qu'une œuvre d'art mérite de l'aide quand elle a au minimum demandé un peu de sueur, de travail, de matériaux, de savoir-faire. Bon, ce qui est idiot, mais c'est comme ça. Bon, enfin bref, la banane, elle n'est pas ça. Voilà, elle est...